Donc c'est un livre qui concerne qui traite de la surveillance politique par l'armée américaine, telle qu'elle émerge à partir de la Première Guerre mondiale et telle qu'elle s'institutionnalise aux États-Unis, donc dans l'entre-deux-guerres, dans la période de paix. Donc c'est un livre qui traite de cette surveillance par les deux organes de renseignement de l'armée et de la marine américaine, qui sont la division du renseignement militaire et le bureau du renseignement naval, qui au départ sont des organes qui n'ont rien à voir avec la surveillance, qui sont des organes créés pour observer à l'extérieur les évolutions techniques, tactiques, stratégiques sur les questions militaires des armées étrangères. Et ce sont des services qui basculent lors de la Première Guerre mondiale sur le terrain intérieur, qui se mettent à surveiller la population américaine. Au départ, censé pourchasser les espions étrangers, censé pourchasser les agents allemands, et puis qui très vite bascule dans une surveillance beaucoup plus généralisée de la population, surveillance des éléments qu'ils considèrent être dangereux pour la bonne mobilisation du front intérieur américain en guerre. Des éléments donc séditieux, qui s'appelleront à partir du début des années 30 subversifs, donc qui représentent une menace intérieure. Donc ce livre, il est consacré à la description de cette surveillance. C'est d'abord, la première manière de le lire, c'est une forme d'ethnographie historique en quelque sorte, c'est-à-dire de description de la manière dont cette forme de surveillance s'effectue concrètement. Donc la présentation générale du livre, elle suit en quelque sorte le déployé pratique de cette surveillance. Donc comment le premier chapitre est consacré à la mise en place de ces appareils de surveillance intérieure, donc à ces bureaucraties qui vont se déployer sur le territoire américain pendant la Première Guerre mondiale. Et au recrutement des individus, au type d'individus en fait qui vont opérer cette surveillance à l'intérieur. Ces services, ils vont recruter beaucoup de policiers, de détectives, de gens qui ont l'expérience de la surveillance pour l'opérer pendant la Première Guerre mondiale. Et donc la première partie de l'ouvrage, c'est sur ces appareils surveillants et les gens qui les peuplent et qui les font agir en quelque sorte. La deuxième partie, elle est consacrée au recueil de l'information, donc comment ces appareils, en période de guerre puis en période de paix, recueillent de l'information politique sur les populations. Très concrètement, ça réunit un panel de pratiques qui va de la consultation de la presse, et donc des documents ouverts, des imprimés, jusqu'à la mise sur écoute et la perquisition, évidemment, illégale des domiciles des cibles les plus réputées, les plus dangereuses. La troisième partie, elle se consacre à la transformation de ce savoir qui est recueilli, pour montrer comment on transforme ces informations en renseignements, selon la distinction consacrée. Donc comment on transforme ces savoirs en savoirs utiles, couchés sur du papier, transmissibles, stockables dans des archives. Et puis la dernière partie de l'ouvrage, c'est de se saisir de ce corpus archivistique des deux services sur la menace intérieure et d'essayer de comprendre la logique qui la traverse, la manière dont la menace est représentée dans ces archives, la conception qu'on a de la menace intérieure dans cette période de la Première Guerre mondiale et de l'après-Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est la première manière de lire cet ouvrage. Donc l'idée, c'était un peu, après 10 ans de travail dans les archives, d'amener avec moi le lecteur à l'intérieur de cet univers et de faire ce qu'on ne peut pas faire à la période contemporaine, c'est-à-dire par le truchement des archives, le faire pénétrer à l'intérieur des services et lui montrer comment ça fonctionne concrètement. Comment ces gens-là opèrent la surveillance, quelles tensions ça suscite chez eux, à la fois des tensions pratiques, des difficultés pratiques, qui sont toujours pris entre la difficulté de récupérer des informations, la volonté de récupérer le maximum, et puis les interdits qui pèsent sur leur activité, qui est tout au long de la période illégitime et non reconnue par les forces armées. Ils sont confrontés à des tensions intellectuelles, ils sont confrontés à la tension intellectuelle liée à l'anticipation, ils sont pris entre d'un côté la nécessité de tout anticiper et donc de recueillir le maximum d'informations sur l'ensemble des choses qui peuvent se produire, et puis de l'autre côté la nécessité de trier parmi tout ça, ce qui est vraisemblable, ce qui est acceptable aussi par la hiérarchie. Donc ils sont pris dans des tensions intellectuelles, et puis enfin ils sont pris dans une forme de tension politique qui est liée au fait que tout ça pour eux ça s'inscrit dans la continuité de la guerre. C'est la guerre qui est le mobile fondamental de cette surveillance militaire, mais dans le même temps, la menace intérieure, elle n'est pas d'ordre militaire, elle est d'ordre politique. Donc en permanence, en quelque sorte, ils sont pris dans cette contradiction entre une surveillance qui se veut la continuité du conflit extérieur à l'intérieur, mais qui en même temps a des motifs, des mobiles et des directions de déploiement qui sont en fait celles du conflit politique intérieur. Donc il porte aussi, alors ça c'est la première partie du travail, la deuxième manière de lire cet ouvrage, c'est la proposition historique qu'il contient, qui est en gros de déplacer l'histoire de la naissance de l'appareil de sécurité américain, et en particulier de l'appareil de sécurité intérieure américain, d'un quart de siècle, c'est-à-dire le faire basculer du lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du contexte de guerre froide vers la Première Guerre mondiale et l'émergence de la question de la guerre totale, en fait, de la guerre moderne, comme le disent les services de renseignement, et la guerre totale. Et donc de montrer qu'en fait quelque chose se noue au moment de la Première Guerre mondiale qui permet l'émergence de cette forme particulière de surveillance qui est la surveillance à mobile militaire et puis bientôt sécuritaire, puisque les services de renseignement vont être parmi les premiers à opérer ce changement de mobile dans leur action, qui est le passage de la défense nationale à ce qu'ils vont appeler à partir des années 30 la sécurité nationale. Donc la deuxième manière de lire l'ouvrage, c'est celle-ci. Elle fait aussi écho à un mouvement plus vaste dans le monde occidental. Les travaux existants sur la France, sur la Grande-Bretagne, sur les pays d'Océanie, sur le Canada, nous montrent que dans les pays comparables à la même époque, au même moment, pour les mêmes mobiles, les forces armées de ces pays dits démocratiques se mettent également à surveiller leur population au nom des mêmes motifs, c'est-à-dire au nom des impératifs nouveaux liés à cette guerre dite moderne. Et puis il y a une troisième perspective de lecture, qui est une lecture plus socio-historique. Dans cette perspective, l'idée d'ouvrage, c'est de montrer, en montrant la surveillance en train de se faire, essayer de montrer quelle est la forme que prend, la première forme historique que prend l'arrangement des États dits démocratiques avec la surveillance sécuritaire. Et en fait, ce que je retire de ce travail, c'est que tout dans le dispositif surveillant, des mobiles explicitement mis en avant jusqu'à la mise en pratique très concrète de cette surveillance, montre que le premier arrangement démocratique avec cette surveillance sécuritaire, il est caractérisé par l'insensibilité. C'est-à-dire que cette surveillance, elle ne peut se déployer, subsister, s'épanouir, qu'à condition qu'elle soit à la fois discrète, invisible pour l'extérieur, et passive, c'est-à-dire qu'elle ne conduise pas, sinon dans des situations extrêmement particulières et dans des contextes extrêmement particuliers, à aucune intervention perceptible de l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de cette manière-là qu'elle va se proroger. Elle va se proroger dans la Seconde Guerre mondiale, elle va se proroger aux États-Unis dans les années 50 et 60 autour du mouvement des droits civiques, autour des mouvements de contestation étudiante, contre la guerre du Vietnam. Et donc cette surveillance militaire, elle ne va jamais cesser en quelque sorte. Elle va apparaître visiblement dans l'espace public américain au tournant des années 70 à l'occasion d'une controverse, de révélation d'un ancien du service de renseignement américain qui va expliquer que l'armée se livre à la surveillance politique de la population américaine. Et contrairement à ce qui avait pu se passer dans la période que moi j'ai étudiée de plus près, c'est-à-dire celle des années 20 et des années 30, là il va y avoir controverse, des gens vont se saisir de cette question, notamment l'American Civil Liberty Union, qui va porter l'affaire devant les tribunaux. Et ce qui est intéressant, c'est que la Cour suprême qui va être amenée à se prononcer va, lors d'une décision qui date de 1973, va débouter ceux qui se plaignent de cette surveillance en leur disant qu'ils n'ont pas de raison d'agir parce que cette surveillance est insensible. Elle est secrète et elle ne donne lieu à aucune action sensible dans l'espace public. Et donc, par conséquent, ils n'ont pas vocation à se pourvoir en justice, va dire la Cour suprême. Donc, pendant une très longue période, l'idée qu'on peut retirer de ce travail d'un point de vue socio-historique, c'est que pendant une très longue période, l'arrangement démocratique avec la surveillance, c'était cet arrangement d'insensibilité. Or, aujourd'hui, dans la période contemporaine, ce qui est remis en cause, c'est justement le caractère insensible de cette surveillance. La surveillance, elle est, depuis les années 2001, de manière visible, à l'échelle occidentale, aux États-Unis comme dans les pays comparables, elle passe tendanciellement en statut actif. C'est-à-dire qu'on utilise les moyens de surveillance sécuritaire, les institutions de surveillance sécuritaire les moyens concrets de surveillance dans le cadre de procédures qui sont de plus en plus judiciarisées et qui donc mènent à une action concrète de l'État contre des citoyens, une action individualisée contre des citoyens réputés dangereux ou dangereux. Et donc il y a quelque chose d'un basculement dans la surveillance contemporaine et d'un divorce de ce premier arrangement historique de fait qui était cet arrangement d'insensibilité, et donc qui pose problème, et qui est intéressant dans une perspective où on s'intéresse dans le débat public beaucoup à la massification de la surveillance, comme problématique liée à la surveillance. Moi, j'y ajouterai à l'issue de ce travail historique la deuxième question, celle du passage en statut actif de ces moyens surveillants.